Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Ashley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver une nouvelle fois Daniel dans le cadre de nos conversations. Et Daniel, vous êtes toujours en Israël. Et ce qu'on constate en Israël, c'est qu'un épisode très intense vient de se terminer autour de Gaza hein, avec l'opération de l'armée israélienne Bouclier et Flèche, une opération qui a duré 5 jours. Daniel, comment les Israéliens ont vécu cet épisode?
Écoutez, le calme est si impressionnant. Chacun sait ce qu'il a à faire. Je veux dire, ils ont l'habitude, mais c'est extrêmement bien organisé. Et si vous voulez, l'idée centrale, c'est surtout ne pas laisser les menaces palestiniennes changer la vie de chacun. Il faut que chacun puisse vivre sa vie personnelle et professionnel comme si de rien n'était. Et au fond, ce comportement, c'est comme si chaque Israélien remportait une victoire sur ses adversaires, justement en ne se laissant pas changer la vie. Et donc la vie continue tout à fait normalement, les restaurants, les plages, etc. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et très franchement, quand on est ici, on est beaucoup plus rassuré. Moi, je reçois tout de suite des coups de fil de tous les gens que je connais à l'extérieur en disant, mais qu'est-ce qui se passe en Israël? Je dis, bah, il se passe ce qui se passe toujours. On commence à avoir une forme d'habitude. Il y a une routine qui s'est installée ici. Alors, je ne dis pas que les populations les plus concernées autour de Gaza ne sont pas très perturbées, mais là, les militaires ont pris la précaution de descendre sur place, de réunir les populations, de leur un petit peu décrire exactement ce qui va se passer. Et on a vu surtout que les réactions, à part quelques communiqués comme d'habitude anti-israéliens de la Commission européenne, de la communauté européenne, mais les pays individuellement de l'Europe n'ont pas bougé. Tout le monde sait bien qu'Israël fait ce qu'il a à faire. Donc, si vous voulez, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé et que le djihad a pris une leçon terrible au cours de cet épisode.
D'accord, donc voilà, vous l'avez dit Daniel, la vie continue en Israël. Alors plus largement, comment on ressent en Israël les effets des tensions, non pas avec Gaza, mais des tensions internationales cette fois?
Ben vous savez, je décris avec vous chaque semaine le chaos mondial, et ce chaos mondial est perçu en Israël à travers le chaos intérieur qui existe en Israël, puisqu'on a à la fois cette polémique sur la réforme de la Cour suprême, et on a ce regain d'une sorte d'intifada nouvelle manière qui, évidemment, concerne tout le monde. En ce qui concerne la réforme de la Cour suprême, les choses sont en cours. Chaque jour, dans le bureau de la présidence, chez le président Itzhak Herzog, les meilleurs juristes et les partis politiques se réunissent pour trouver ce qu'on appelle un large consensus. On avance bien sur le plan technique et juridique, parce qu'on a les solutions, mais la réponse sera finalement politique, celle que donnera le Premier ministre, et c'est parce qu'on a cette incertitude que personne ici ne peut être totalement confiant, même si on a trouvé des solutions juridiques satisfaisantes. Donc on est un peu tout à fait en attente. Par contre, sur la question palestinienne, là on a ce qu'on appelle une intifada multifront. Tout le monde a bien compris que l'Iran et derrière tout cela, finance les différentes factions, joue sur la concurrence que chaque faction se livre parce que tout le monde prépare l'après Abbas. Là, c'était le djihad islamique qui a voulu prendre une forme de prééminence sur le Hamas. Donc, c'est un jeu à la fois entre Israël et le terrorisme de Gaza, mais à l'intérieur de Gaza, entre le Hamas et l'islam et le djihad islamique. Et l'Israël doit à la fois répondre militairement, mais aussi politiquement à tout ça. Et ça a été plutôt bien géré, je dirais, aujourd'hui. On peut dire que les factions palestiniennes savent que chaque mouvement qu'ils vont faire leur coûtera très cher. Si on devait conclure sur cet aspect, on pourrait dire que le gouvernement israélien a compris comment gérer à court terme ces menaces. Par contre, on n'a pas de solution à long terme sur la menace palestinienne. Deux États côte à côte, c'est l'illusion de beaucoup de pays. En réalité, tout le monde sait que les Palestiniens veulent un État à la place d'Israël et non pas à côté. Donc, on est dans cette incertitude où seul le statu quo peut offrir une solution. Je ne sais pas combien de temps tout cela peut tenir. Donc, vous voyez, partout, on est en situation de pause, d'attente, d'incertitude.
Alors, on comprend donc bien que les solutions aux questions intérieures ne sont pas pour demain, mais par ailleurs, Daniel, comment les Israéliens vivent la situation dans le reste du monde?
Alors, si vous voulez, le citoyen israélien, c'est un des citoyens les mieux informés dans le monde et la géopolitique les passionne autant que la politique. Et donc, les débats, les commentaires sont extrêmement nombreux. Mais évidemment, comme les positions sont différentes, il y a plus de confusion que d'information. Alors, si je voulais essayer d'apporter de la clarification dans cette confusion, je dirais que finalement, petit 1, Israël subit les conséquences des grands conflits actuels, qui sont la guerre en Ukraine et la confrontation qui n'est pas militaire mais qui est économique, mais qui n'en est même pas moins terrible entre les États-Unis et la Chine. Donc la situation, Israël est en situation passive, ce qu'elle déteste, et donc elle essaye de gérer au mieux cette situation. Et on peut dire, quand on regarde la situation économique ici, que les Israéliens, au fond, gèrent beaucoup mieux qu'ailleurs, même s'ils se plaignent évidemment tous les jours, parce que c'est un sport national et mondial que de se plaindre. Alors, si vous voulez, si Israël essaie de trouver une zone où elle ne subit pas, mais où elle peut au fond prendre l'initiative, il y en a une qui apparaît, et c'est le Moyen-Orient. Je crois que c'est la grande leçon de ces dernières années, c'est qu'Israël est en train de devenir de plus en plus intégré à la région où elle vit. Et finalement, le Moyen-Orient, c'est le lieu où existe la plus grande menace pour Israël, mais aussi la plus grande opportunité. La plus grande menace, ben, c'est l'Iran. L'Iran, dont on sait qu'aujourd'hui qu'elle est soit proche d'être un État du seuil atomique, soit qu'elle le soit déjà. On voit bien que cette menace iranienne, elle est à multiples dimensions. Il y a la possession par l'Iran de la bombe, auquel on a l'impression que la plupart des pays sont en train de s'accoutumer, comme si on ne pouvait pas à stopper ça. Mais si vous regardez dans le passé, on s'est toujours opposé à la constitution d'armement atomique en Inde, au Pakistan, même en France, quand la France a voulu se doter de la bombe atomique, les Américains étaient très hostiles et finalement, ceux qui ont voulu la bombe l'ont toujours eu. Et donc, il y a une espèce de résignation. Par contre, la menace iranienne, ce n'est pas que la bombe, c'est aussi cet axe chiite qui est au nord d'Israël, qui s'appelle Irak, Syrie et Liban, et qui est active tous les jours. Tous les jours, Tsahal va bombarder des bases iraniennes en Syrie, toujours avec l'accord de la Russie, et donc essentiel pour Israël de garder des liens positifs avec la Russie. Et puis, il y a ce financement par l'Iran des différentes factions palestiniennes. On les met en concurrence les unes contre les autres avec l'idée de ne pas laisser Israël tranquille. Donc, on l'a vu tout à l'heure, comment cela est géré par Israël, plutôt bien à court terme, mais à long terme, on ne sait pas. Alors ça, c'est la menace iranienne, elle est là. L'initiative que voudrait prendre Israël, c'est de frapper de façon ciblée, évidemment, les installations nucléaires. Mais il est clair aujourd'hui que ni les États-Unis, ni l'Europe, ni les grandes puissances ne laisseront Israël faire cela. La guerre en Ukraine donne l'exemple de conflits qui commencent et dont on ne sait pas comment ils évoluent. Donc, si vous voulez, la situation pour Israël, c'est qu'elle veut prendre l'initiative, elle est seule. Elle ne peut pas prendre d'initiative seule. Heureusement, il existe une opportunité, ce sont les accords d'Abraham. Alors, les accords d'Abraham, avec ceux qui ont été signés, ils tiennent remarquablement les chocs que l'on décrit précédemment. Ni les Émirats, ni Dubaï, ni le Maroc ne changent leur politique. Ils sont toujours activement partie prenante de l'application de ces accords d'Abraham. Et donc, la vraie question qui est posée, c'est l'extension des accords d'Abraham à l'Arabie saoudite. Et donc, la question clé, c'est l'Arabie saoudite. Et là, on voit bien que c'est un jeu entre l'Arabie saoudite, Israël, mais aussi les États-Unis et la Chine. C'est un jeu à quatre extrêmement compliqué.
Alors Daniel, pour terminer, quelle conclusion vous tirez de tout cela?
Écoutez, très, très étrangement, c'est que vu d'ici, c'est le Moyen-Orient qui est en train de devenir, au fond, le centre d'intérêt stratégique pour Israël et d'ailleurs pour le monde entier. Je l'avais déjà expliqué, on a un Moyen-Orient qui est, au fond, le lieu où toutes les quatre grandes puissances, Russie, Chine, Europe, États-Unis, sont à la fois présents, actifs, prudents et où Israël a un rôle important à jouer. Donc tout le monde parle à Israël, tout le monde sait qu'Israël détient beaucoup de clés de l'avenir de ce Moyen-Orient qui est au cœur de la diplomatie de pratiquement toutes les grandes puissances. Donc ça donne à Israël une capacité diplomatique, une capacité de messager, une capacité peut-être même de médiation qui est inattendue et qui est possible mais qui n'est pas encore actuelle, mais à laquelle la diplomatie israélienne se prépare. Donc voilà, là aussi, phase d'attente, mais quand même centrage de la vision israélienne sur le Moyen-Orient, ce qui est quand même quelque chose de relativement nouveau et qui va de plus en plus marquer nos conversations futures.
Merci beaucoup Daniel Haber pour tous vos éclairages et comme d'habitude, on vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
À bientôt.